Dynamique forestière, la 13e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zanzine, en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Depuis sa création en 2008, le réseau pour les alternatives forestières a tenté de fédérer des initiatives individuelles et collectives qui cherchent à favoriser une approche de la gestion forestière qui respecte les écosystèmes et les personnes qui y travaillent. Souvent, il faut aussi se mobiliser pour contrer des phénomènes lourds de conséquences négatives pour nos forêts. Cette émission reflète bien ces deux aspects de la question. Nous commençons avec une rencontre avec trois membres d'un collectif, Nature sur un plateau, qui cherche, sur le plateau de Mille Vaches en Limousin, à trouver des alternatives aux monocultures de résineux et aux coupes rases qui caractérisent la gestion actuelle. Ensuite, le groupement forestier du Pic Noir, dans la région du Centre, est un bel exemple d'initiative collective de plusieurs familles qui décident d'acheter et de gérer une forêt selon les principes de ProSilva. Ces deux dynamiques ont participé à la 9e rencontre du réseau pour les alternatives forestières qui a eu lieu début octobre 2013 à Bibracte en Bourgogne. L'une des thématiques prioritaires lors de cette rencontre a été la menace que représente le nombre croissant de méga-projets industriels, des scieries, des centrales à biomasse, qui augmentent considérablement la pression sur les forêts, qui sont considérées désormais comme de simples gisements de production. Parmi les méga-projets les plus évoqués était la centrale électrique à biomasse prévue par l'entreprise allemande E.ON à Gardanne. Ce sera le troisième sujet de cette émission. Mais commençons avec le Limousin et l'initiative Nature sur un plateau, présentée par Gaël, Leslie et Vincent.
C'est le constat fait sur le territoire d'une exploitation forestière très intensive, avec de nombreux impacts qui questionnent beaucoup sur quelle est la place des habitants et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire évoluer la situation.
En fait, le plateau de Mille Vaches, c'est un territoire très particulier qui a subi un très fort exode rural dès avant la première guerre et puis qui s'est intensifié au moment de chaque guerre et puis même après. Et en fait, c'était un territoire d'élevage de moutons avec des landes à bruyères beaucoup et très très peu de forêts. On avait vraiment que quelques espaces forestiers restreints. Et en fait, en lien avec l'exode rural et l'abandon de terres agricoles, a été décidé, comme dans d'autres territoires de France, l'enrésinement. Au départ, un enrésinement dans une logique de forêt paysanne, sous l'impulsion d'un forestier qui s'appelait Marius Vazeille. Et après, ça a été repris et intensifié très fortement par un enrésinement dans une logique industrielle. Voilà, avec au début une logique d'enrésinement avec pin sylvestre, puis épicéa, et puis maintenant Douglas. Maintenant, c'est exclusivement Douglas. Dans les années 60, il y avait le Fonds forestier national qui finançait très largement les plans aux propriétaires forestiers et les travaux. On poussait très fortement les propriétaires à faire cet enrésinement, et comme en plus beaucoup de propriétaires n'habitaient plus le territoire, ils n'avaient pas les conséquences néfastes de cet enrésinement avec fermeture des paysages, modification complètement de la vie locale, des sols, des usages qu'on avait du territoire.
Mais si on regarde certains articles de l'époque que j'ai pu voir dans une publication, il y avait quand même des voix qui se sont élevées à l'époque qui vraiment n'étaient pas d'accord avec cette évolution.
Ouais, alors on est tombé sur une archive d'un relevé de conseil municipal d'une commune du plateau qui date de 1873, je crois. Et le conseil municipal s'oppose à l'enrésinement du territoire en disant « c'est une terre de bêtes à laine, nous voulons conserver cette vocation ». Alors bon, ça c'était relativement isolé. Après, dans fin des années 70, donc suite à cette vague importante d'enrésinement, il y a eu des manifestations importantes, notamment en réponse à la destruction d'un village pour pouvoir y implanter une plantation de résineux. Donc là, il y a eu un mouvement assez important, finalement pas eu beaucoup de conséquences. Et là, les choses sont réapparues en 2010. Alors on n'explique pas bien les facteurs qui ont fait que là, ça semble peut-être un peu mieux prendre que ça a pris il y a 30 ans. Mais dans tous les cas, là, on est dans une situation où le territoire questionne la filière.
Et pour imaginer le paysage maintenant, c'est uniquement des résineux, quasiment, le bois, ou est-ce qu'il y a quelques zones de feuillus, et est-ce qu'on peut imaginer à peu près le pourcentage de couverture forestale par rapport à enfin, des terres agricoles, etc.
Au niveau de la couverture forestière, ça varie suivant les communes et suivant les secteurs du plateau de Mivage, qui est quand même très vaste. Hein. C'est, si on prend la limite du parc, c'est 330 000 hectares, donc c'est un territoire considérable. Et puis sur trois départements, donc les politiques forestières ne sont pas tout à fait toujours les mêmes. Mais en tout cas, il y a des communes qui vont jusqu'à 70% de taux de boisement aujourd'hui. Ça, c'est le maximum, mais c'est quand même très, très fort. D'autres où c'est plutôt plus près de 50 ou un petit peu moins. Et après, on a quand même encore de très, très beaux espaces feuillus, notamment dans certaines vallées, de certaines gorges, les gorges de la Vienne, de la Vézère ou du Chavanon, enfin des territoires où il y a encore beaucoup de feuillus. Encore quelques beaux peuplements de hêtres aussi sur le dessus du plateau, mais qui tendent à régresser très, très fortement sous la pression de l'enrésinement, parce qu'il y a beaucoup de coupes rases qui se font, y compris pour remplacer le feuillu par du résineux. Quoi. Parce que bon, du fait des rendements, enfin des accroissements annuels de bois en mètres cubes par hectare, bah, le résineux est trois fois plus intéressant que le feuillu, quoi.
Juste pour compléter l'image de ce secteur forestier de votre région, est-ce qu'on peut dire que le bois, donc résineux, coupé, est travaillé sur place, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'exportations vers d'autres endroits? Bon, il y a des scieries connues comme Ambiance Bois, mais ça c'est un petit exemple, je pense, un peu différent que peut-être que les grands. Mais qu'est-ce qui se passe avec tout ce bois qui est coupé sur vous?
Beaucoup de bois part dans l'industrie, notamment dans la pâte à papier. On a une grosse usine à Saillat-sur-Vienne, International Paper, qui consomme du coup beaucoup de bois, bois blanc, d'éclaircie souvent. Et ben voilà, après, elle fonctionne en flux tendu. Il y a d'autres industries qui ont des gros volumes. Il y a des usines de biomasse qui se sont montées à Limoges, à Moissanne. Enfin voilà, il y a une grosse demande de matières premières au niveau du bois et
Il y a aussi des scieries, beaucoup de scieries de plus en plus grosses, notamment tout autour du plateau, que ce soit en Creuse, en Corrèze ou en Haute-Vienne. Et donc elles ont des gros, très très gros besoins aussi. Et puis on a aussi des usines de panneaux de particules. Et maintenant, en complément des unités de biomasse, on a aussi des unités, des industries qui font du bois, des pellets, quoi, des granulés. Il y en a une qui fait 80 000 tonnes, là, qui est tout près du territoire. Donc tout ça, mis bout à bout, ça commence à peser très très lourdement sur la ressource, sans compter que le local, les habitants du plateau, autour de 35-40 000 personnes, se chauffent à 60% pour 60% des ménages au bois. Donc tout ça, mis bout à bout, ça finit par faire une très très grosse pression. Et en plus, très récemment, on a découvert que le bois, une partie du bois partait aussi en Chine.
Ouais, j'ai vu des photos dans le même journal avec China Shipping, des énormes camions.
C'est une exportation de produits bruts qui du coup ne laisse aucune valeur ajoutée pour le territoire. Une tension très forte pour les acteurs de la filière, y compris pour les petits et les gros. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence, puisque même des usines qui sortent 140 000 m3 de panneaux de bois se retrouvent en difficulté d'approvisionnement. Et des projets de méga chaufferies qui sont de part et d'autre du territoire et qui envisagent très fortement de venir s'approvisionner sur le massif forestier du plateau. Quoi.
Encore une question sur la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe avec la main-d'œuvre? Est-ce que c'est les gens du plateau qui bossent pour couper ces arbres, ou est-ce que c'est beaucoup des gens employés, gens, bon, souvent on parle des Turcs ou des Portugais ou autres, hein, qui souvent sont très mal payés dans des mauvaises conditions?
Alors historiquement, la forêt y était employée, enfin dans les années 80, on va dire, employée encore beaucoup de Turcs, notamment des bûcherons. Mais après la tempête de 99, déjà un petit peu avant, mais enfin en tout cas ça s'est vraiment intensifié en 99, on a eu une surmécanisation très très forte du territoire, parce que ça s'y prêtait bien du fait d'un relief assez mou, de vallonnement, de collines et de sol sableux assez portant. Et du coup la mécanisation, les abatteuses se sont développées très très massivement, plus les porteurs forestiers. Et donc aujourd'hui on a un emploi lié à l'exploitation du bois qui représente très très peu. En fait, pour une abatteuse remplace 15 bûcherons. Donc, et on estime à peu près autour d'une centaine d'abatteuses qui tournent en permanence sur le territoire du plateau de Mille Vaches. Donc, c'est des volumes considérables qui sont mobilisés chaque année, quoi. Et les locaux, les habitants voient la forêt disparaître chaque année. Et c'est aussi comme ça que notre association et ce qu'on a fait émerger a eu très très vite beaucoup d'écho, quoi.
Je pense qu'il y a un autre aspect qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe une fois que la forêt est coupée.
Bah alors là, on a différents cas de figure. Sur certaines parcelles, il y a une replantation un peu à l'identique, c'est-à-dire une monoculture de Douglas dans 9 cas sur 10, qui du coup s'accompagne un grand nombre de cas de pesticides au moment de la plantation, donc du gaucho, qui s'appelle succon forest, en réalité pour le produit forestier. Ensuite, un certain nombre de petits propriétaires, en fait, vu le bilan économique de la vente du bois par rapport aux travaux de préparation de sol, replantation et traitement, bah, finalement, ne replantent pas. Donc on a beaucoup de parcelles qui partent en accrue, enfin, qui repartent en accrue sauvage. Ce qui n'est pas forcément un mal en soi, hein. enfin, ça dépend des objectifs qu'on fixe, quoi. Si c'est pour approvisionner la filière, il y a un trou de production qui est prévu d'ici 5 à 10 ans, en gros. Enfin, aux alentours de 2020, on sait très bien que au rythme auquel on exploite la forêt, y compris de résineux, on sera plus capable de poursuivre à ce niveau-là.
Parce qu'en fait, les résineux arrivent un peu tous à soi-disant maturité, ou ce qu'ils considèrent maturité en même temps.
Et comme il y a un besoin important de fourniture de l'industrie, on a une tendance à couper les résineux de plus en plus jeunes parce que ben il faut remplir des camions pour approvisionner les usines.
Au niveau de l'exploitation, c'est vrai que là on est en fin d'exploitation de l'épicéa, de tout ce qui a été planté en épicéa, c'est à peu près la fin du cycle. Et là ils attaquent très fortement déjà depuis, on va dire à peu près cinq ans, la production de Douglas. Effectivement, ils vont encore avoir, on va atteindre le pic peut-être dans 5 ans ou quelque chose comme ça. Et donc dans 10 ans, le Douglas aura été complètement exploité. Et derrière, effectivement, il y a plus grand chose, quoi. Donc d'ailleurs, ils sont déjà en train de prévoir des plans pour se reporter aussi sur le feuillu. Et il y a des industriels qui avant utilisaient que du résineux et qui maintenant utilisent aussi du feuillu, notamment dans les panneaux de particules. Avant, ils faisaient que du résineux. Maintenant, ils mangent aussi du feuillu. Donc, on voit qu'il y a aussi une concurrence par rapport entre les usages et une évolution très très forte qui risque de se reporter très fortement sur le feuillu du fait de l'absence de résineux.
Et sur le Douglas, moi j'ai entendu dans d'autres régions, mais en tout cas, on considère qu'ils sont matures beaucoup plus jeunes qu'ils avaient dit avant. Et avant, c'était genre minimum, je sais pas, 60, 70 ans peut-être. Maintenant, c'est 40 ou un truc comme ça.
Chez nous, maintenant, ils en sont même, pour dans certains cas, à exploiter à 35 ans, quoi. 35 ans, c'est un arbre comme un Douglas, c'est plus qu'un gamin, quoi. C'est déjà à 80 ans, par rapport à l'arbre, quand on l'observe dans ses conditions, son aire d'origine aux États-Unis, enfin aux côtes pacifiques, un arbre comme le Douglas, il commence à avoir un cortège d'oiseaux, d'insectes, donc à être un habitat, et donc un arbre mature à 300 ans. Donc en fait, si on le coupait probablement à 150 ans ou à 120 ans, ça pourrait commencer à être, on pourrait considérer que c'est un arbre qui a une forme déjà de moyenne maturité, quoi. Et donc en le coupant à 35 ans, forcément, c'est incroyable. Et en plus, quand on regarde l'arbre, à 35 ou 40 ans, il y a la moitié d'aubier et le reste de cœur. Et l'aubier, on sait bien qu'en valorisation, on peut pas en faire grand-chose, quoi. Et, alors que à 80 ans, on n'aura plus que 20 ou 25% d'aubier. Donc il y a vraiment un gros intérêt par rapport à l'utilisation du bois derrière. J'ai discuté tout avec le sieur, il disait, moi quand je scie des glaces d'un mètre, j'ai 70% de rendement sur l'arbre. Alors que quand ils exploitent des arbres de 35 ans, bah, ils ont même pas 50% de rendement, quoi.
Avec deux compléments, qui est qu'un Douglas, il commence sa phase d'accroissement réellement important à partir de 40 à 50 ans. Donc on le coupe au moment où il commence vraiment à se développer. Et l'autre point, il est plus agronomique, qui est qu'un arbre, quand il est jeune, il pompe des minéraux dans le sol et il les restitue que quand il est plus vieux, c'est-à-dire à partir de 60 ans. Donc là, le cycle dans lequel on est contribue à épuiser les réserves du sol, qui sont déjà pas très importantes sur des sols granitiques, quoi.
Après, il y a aussi les méthodes d'exploitation qui abîment beaucoup le sol, en fait, quand déjà les engins sont très très lourds. 40 tonnes, c'est quand elles circulent sur un sol forestier, ben, ça compacte vraiment beaucoup le sol. Et puis, après une coupe rase, le sol est à nu et donc la pluie qui tombe sur les versants achemine des matières qui auraient constitué de la matière fertile pour le sol directement jusqu'au ruisseau qui coule en bas. Donc ça crée d'autres dégâts pour les populations aquatiques, quoi.
Juste, et en complément, en plus on est sur un territoire de moyenne montagne en façade océanique, donc il tombe 1,5 m d'eau par an sur le dessus, donc c'est pas rien, et sur des sols nus, sableux, donc qui n'ont pas de complexe argilo-humique, enfin qui se tiennent pas, c'est catastrophique, quoi. Le sol, il part très très vite dès que le sol est à nu, quoi.
Voilà, face à ce constat pas exactement très réjouissant, qu'est-ce que vous essayez de faire avec votre association Nature sur un plateau ?
Alors, on est sur un triptyque. Tout d'abord, on essaye de se former parce que bon, on a 50 adhérents, enfin une cinquantaine, et puis on grossit toujours de plus en plus. Mais les gens qui nous rejoignent sont pas forcément spécialistes gestionnaires forestiers, et donc on a quelques bons dans notre équipe. Et du coup, l'idée c'est que eux transmettent les connaissances à tout le groupe pour ensuite pouvoir diffuser beaucoup plus largement. Et former la population aux enjeux. Donc pour ça, on fait pas mal de balades régulièrement où on parle beaucoup et on explique la gestion forestière. Et puis on a fait aussi des formations en plusieurs cycles pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'une forêt, la gestion, et puis comment concrètement dans la forêt, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à améliorer le peuplement.
Pour vous, ça veut dire quoi améliorer le peuplement ? Comment on peut faire ? Est-ce que c'est diversifier la forêt ? Est-ce que c'est, je sais pas moi, couper tous les résineux et remplacer avec autre chose ? Ou c'est quoi ?
C'est déjà garder une forêt en place, essayer de apprécier les arbres d'avenir pour pouvoir, en les laissant pousser, arriver à les valoriser plus quand ils seront mûrs, et puis avoir une forêt diversifiée. Donc on n'est pas du tout contre les résineux, bien au contraire, le Douglas, c'est un arbre magnifique, mais il est beaucoup plus beau et il fait moins de mal à la terre lorsqu'il est en peuplement mélangé. Voilà, c'est la monoculture en fait qu'on déplore et la coupe rase. Voilà, mais on peut sortir du bois sans abîmer, ou en abîmant beaucoup moins le sol et en laissant les peuplements en place, quoi.
Ce qu'on aimerait bien faire passer aussi comme message, notamment aux propriétaires forestiers, c'est que au jour d'aujourd'hui, où ils ont des bois sur pied qui ont une quarantaine d'années, ils n'ont pas devant eux que la solution unique de tout couper. Quand on a ça, on peut très bien aussi imaginer d'en couper quelques-uns, de faire revenir la lumière et d'initier progressivement quelque chose qui va aller vers un autre système, un autre mode de futaie, et qui va permettre aussi de réamener du feuillu et d'obtenir à la fois un mélange d'essence, avoir à la fois une forêt beaucoup plus structurée avec différents niveaux, différents étages de végétation. Bref, retourner vers une forêt plus naturelle, en tout cas plus écologique et plus mixte et plus proche de, en s'éloignant d'un système complètement artificialisé tel qu'on l'a sur le millevache où on a une espèce et toutes les arbres du même âge, quoi.
Mais est-ce qu'il y a des gens dans votre association qui déjà forment des équipes qui travaillent dans la forêt ou c'est plutôt un travail de sensibilisation du public ?
Pour l'instant, on en était plutôt à la sensibilisation du public, mais on est aujourd'hui dans la construction justement d'un certain nombre d'actions pour aller plus loin et pour former justement les propriétaires ou même des acteurs de la filière à ces autres modes de gestion et de type de futaie, notamment irrégulière. Voilà, ça c'est un point important. Et on a aujourd'hui commence à avoir l'écoute de quelques propriétaires qui pourtant certains ont de la surface et qui n'avaient qu'un seul modèle sous les yeux, et puis avec ce qu'on a diffusé comme information, qui disent « Ah, mais il y a d'autres choses, quoi ». Et en plus, comme on est à un moment de charnière, notre discours a aussi porté, il nous semble, un petit peu ses fruits. On a peut-être semé ou amené une étincelle au bon moment. On n'est pas responsable, mais on a amené une étincelle, y compris au niveau du Centre Régional de la Propriété Forestière, du Parc et du Groupement de Développement Forestier, puisque cet été, comme par miracle, trois formations au lieu de une dans chacune de ces structures sur la gestion en futaie irrégulière, c'est-à-dire ce qui permet la forêt continue sans coupe rase. Et c'est pas nous qui les avons incités là-dedans directement, c'est qu'il y a une évolution quand même le fait qu'il y avait qu'un modèle, ça gênait quand même un certain nombre d'acteurs, et notre voix et sûrement la voix d'autres organismes ou personnes a fait qu'il y a déjà des choses qui se passent. Ça se voit pas concrètement encore, mais par contre, au niveau des formations, il y a déjà un semblant, une prémisse d'une évolution, quoi.
Ouais, après, il faut préciser qu'il y a quand même déjà sur le territoire des propriétaires qui sont dans des modes de gestion qui répondent à d'autres objectifs, hein, qui essaient de travailler en futaie irrégulière. Après, ils sont très minoritaires, c'est-à-dire qu'ils représentent moins de 5% de la forêt résineux-gérée, mais c'est des initiatives qui existent et qui sont très intéressantes et à valoriser.
On veut répertorier, on essaye de répertorier ces gens-là, de répertorier aussi les gens qui conseillent ces gens-là, et de diffuser à la fois les localités où il y a organisé des balades, choses comme ça, sur ces parcelles-là, et en lien avec les gens, les propriétaires qui ont fait ces choix-là, avec des gestionnaires éclairés qui ont proposé ce genre de choses. Et déjà là, on a un levier, il nous semble important, et y compris du coup en ayant des propriétaires qui se posent des questions, qui ont des parcelles qui ont subi la tempête et du coup ils voient des choses se passer avec de la régénération naturelle, parce qu'en plus le Douglas régénère très très fortement, et là on pense qu'on a des leviers d'action avant même de nous-mêmes vouloir former, voilà, puis il y a des gens déjà compétents, bon, mais on imagine aussi d'autres types d'actions. Par exemple, on a quelque chose qui n'est pas encore très formalisé, mais on se dit peut-être qu'on pourrait faire un point conseil sur la forêt, parce qu'on a 20 000 propriétaires forestiers sur le plateau Mille Vaches, et on a du mal à les toucher. Et du coup, on se dit, avant que ces gens-là identifient un technicien ou un expert forestier et qu'ils aient envie d'aller vers ces gens-là, il faut déjà leur faire comprendre un certain nombre de choses, qu'ils intègrent un certain nombre de choses sur leur forêt, là où elle en est, ce qu'ils peuvent faire, et quel intérêt ils auraient à ça, pour qu'après, ils aient envie d'aller prendre les conseils de quelqu'un de plus pointu, on va dire, quoi. Donc on se dit peut-être que là, il y a une clé.
Ouais, parce que là, on est sur un schéma de conseil unique, quoi. C'est-à-dire que les structures qui réalisent les travaux d'exploitation sont les structures qui réalisent le conseil jusqu'à la vente. Donc, essayer de sortir un peu de ce cadre-là pour pouvoir proposer un conseil qui n'est pas intéressé et qui laisse au propriétaire la possibilité d'avoir le choix de s'orienter en fonction de ses objectifs et de ses envies entre différents schémas de gestion.
Il n'y avait pas aussi l'idée d'une acquisition de forêt ?
Alors effectivement, on est venu à ces rencontres aussi à Bibracte, notamment pour travailler aussi sur cette question-là, puisque un certain nombre de personnes, membres ou non membres de l'association, nous ont interpellés sur ce sujet-là en disant et pourquoi pas l'achat collectif de forêt comme aussi résistance et renforcement d'initiatives, de démonstration dans un sens différent de ce qui se fait sur le plateau. Et donc du coup, effectivement, on va essayer d'avancer sur ce sujet de l'acquisition collective. On ne sait pas encore exactement avec qui, combien. Avec quelle valeur, ça reste tout reste à définir, mais en tout cas c'est clairement une piste, et d'autant plus qu'on a déjà des liens avec des entreprises comme Ambiance Bois qui pourraient tout à fait être intéressées par du bois qui viendrait de ce type de groupement forestier, voilà, avec des valeurs qui seraient plus proches des leurs, parce qu'aujourd'hui ils sont dépendants, Ambiance Bois par exemple est dépendant d'un système qui fait la coupe rase et qui n'a pas les valeurs d'Ambiance Bois, quoi.
Ouais, et pour ajouter un certain nombre d'initiatives qu'il y a aussi sur le territoire et sur lesquelles on essaie d'apporter l'aide qu'on peut, c'est par exemple un projet d'AMAP bois de chauffage, un projet de création d'une SCOP de travaux forestiers Du coup, sur des modes de gestion irréguliers. Il y a un certain nombre d'acteurs qui commencent à s'interroger sur d'autres schémas de production. On essaie de les soutenir autant qu'on peut en les mettant en lien avec des propriétaires qui nous contactent, en essayant de faciliter l'émergence de nouveaux acteurs sur la filière bois du territoire.
C'était donc Vincent, Leslie et Gaël de l'association Nature sur un plateau. Venons-en maintenant au groupement forestier du Pic Noir que nous présente Roger Ramon, ingénieur forestier à la retraite et membre de ProSylva France.
Donc le Pic Noir, c'est toute une histoire qui est née au sein d'une AMAP, une belle AMAP de la région centre, où un petit groupe de personnes se sont dit: dans quelques années, aurons-nous encore du pétrole à mettre dans nos chaudières? Est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper et peut-être acheter une forêt pour se chauffer au bois si les temps deviennent très durs? Donc ce petit groupe d'amis a mis sur la table ses possibilités financières et nous sommes partis à la chasse d'une forêt, ce qui a été très difficile. Parce qu'il faut savoir que c'est un marché qui est très souterrain, qui est très entre soi, dirons-nous, experts agricoles, experts forestiers, etc. Et en fait, on a énormément de mal à avoir des opportunités pour trouver, acheter une forêt. Donc au bout de 2 ans, nous avons enfin réussi à trouver une forêt qui nous convenait, sachant que ce qu'on cherchait, c'était une forêt, une belle forêt, diversifiée, avec des essences différentes. Et nous avons eu la chance de tomber sur un massif de 30 hectares qui répondait à nos souhaits, puisque nous avons essentiellement du chêne, du châtaignier, du robinier en mélange, et que cette forêt était quasiment pas gérée depuis une vingtaine d'années. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous avons retroussé nos manches, et puis nous sommes partis. Petite difficulté, il a fallu créer des statuts. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais heureusement, moi je suis le gérant technique de ce groupement, mais heureusement nous avons un comptable dans notre groupement qui a l'habitude de gérer des SCI et tout le reste, et donc qui nous a complètement démêlé la partie administrative de l'affaire. Et puis voilà, maintenant nous passons un jour par mois ensemble dans cette forêt. Nous avons construit une cabane au milieu de la forêt. Et puis nous faisons des petits travaux divers et variés. Et mes amis n'étant pas du tout forestiers, c'est moi qui leur inculque quelques notions diverses et variées.
Mais ça veut dire que si vous faites des travaux, donc éventuellement des coupes sélectives ou des choses comme ça, vous employez des gens ou est-ce que c'est vous-même qui... Vous savez, dans le groupe, il y a des personnes qui font ce travail?
Alors dans le groupe, nous avons la chance d'avoir un bûcheron dont c'est vraiment le métier. Donc il fait une partie du travail, mais il ne peut pas tout faire parce que la forêt est vraiment à remettre en ordre sur l'ensemble des 30 hectares. Donc en fait, il y a beaucoup de travail. Et notre difficulté, ça a été, en arrivant dans un endroit qui est un peu loin de nos bases et où on ne connaît personne, de se faire accepter par le milieu local. Alors je passe par les chasseurs, je passe par le petit hameau qui est à côté de notre forêt, l'agriculteur voisin, on ne connaissait personne. Donc si vous voulez, ça met du temps à se mettre en place. Et depuis l'année dernière, nous avons de la chance. Il y a 2 voisins que nous avons rencontrés un peu par hasard, qui commencent à faire du bois de feu. Parce que quand on commence la gestion dans une forêt comme ça, il y a beaucoup de travail à faire en termes de petits bois. Donc nous avons installé ce qu'on appelle des cloisonnements, c'est-à-dire des lignes à l'intérieur des parcelles pour pouvoir sortir les bois. Et nous avons commencé un peu d'exploitation de bois de feu. Mais nous débutons seulement. Plus tard, nous aurons évidemment quelques grumes à couper, mais nous n'en sommes pas encore là.
Mais la question d'arriver à acheter une telle forêt et en plus le relation avec, disons, la profession, pour vous, vous êtes donc un peu du métier. Hein, ça veut dire que, par exemple, pour un groupe qui n'est pas du tout du métier, ça doit être encore plus difficile. Pour des simples citoyens qui souhaitent sauvegarder des forêts et assurer une autre gestion, ça doit être fort difficile.
Oui, alors disons qu'il y a plusieurs options. Si vous achetez une forêt lambda qui n'a pas beaucoup de valeur, bon, c'est pas très difficile, mais c'est une vue à très très long terme et vous n'aurez pas de revenus. Le tout est de savoir ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire quelque chose de complètement altruiste en disant je sauve la planète en sauvant quelques arbres, bon, c'est possible. Nous, on avait un réflexe un peu plus terre à terre. On voulait une belle forêt de laquelle on pouvait extraire des produits et avoir un certain revenu. Donc on a vraiment souhaité acheter une belle forêt. Et je crois que c'est important parce que à partir du moment où elle est belle, où on a de beaux arbres, on est motivé pour travailler dedans et on va pas rouler sur l'or, hein, parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Les revenus forestiers, c'est quelque chose de très très faible. Je ne sais pas si tout le monde a bien l'idée de ça, mais c'est très clair qu'un investissement en forêt, c'est un investissement à des rendements très 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 faibles, voire quelquefois négatifs. Nous réunissons régulièrement, nous avons un conseil d'administration chaque année, les grandes lignes sont définies à cette occasion-là, et tout le monde est complètement d'accord parce que nous avons des valeurs communes. Donc pour l'instant, on ne se pose aucune question. Bon, il est bien évident que dans le temps, avec des enfants qui sont déjà à l'intérieur du groupement. Il y a plusieurs familles et donc des enfants sont déjà membres du groupement. On pense à la pérennité et à l'avenir. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. On sait bien qu'il y aura certainement quelques difficultés plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment...
Si je comprends bien la démarche, c'est surtout, disons, un certain nombre de familles donc qui décident, voilà, on a besoin d'à peu près une forêt comme ça pour avoir les besoins éventuels en chauffage, etc. plus tard. Donc, mais vous n'avez pas du tout l'idée d'essayer peut-être d'étendre cette expérience peut-être avec d'autres. Vous êtes plutôt là sur ce que vous avez envie d'avoir.
Pour l'instant, on est effectivement en circuit fermé et on ne s'est même pas posé la question de savoir si on voulait ouvrir. Mais je pense que c'est une autre gestion si on ouvre à l'extérieur. Il y a d'autres groupements forestiers qui le font. Ce n'est pas notre objectif pour l'instant.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter peut-être qui semble important là-dessus?
Peut-être quand même votre activité que vous avez eu en tant qu'ingénieur forestier, et vous étiez dans la formation, vous étiez à la base de ProSilva, peut-être vous pourriez juste expliquer un peu ça.
Oui, moi j'ai eu la chance d'enseigner pendant des années, entre autres, la technologie du bois, c'est-à-dire en fait l'usage du bois, et donc c'est vraiment le lien entre le producteur et le consommateur, et donc je connais tous les problèmes de la filière. J'ai visité des quantités d'industries du bois partout en France à l'occasion de la scolarité de mes élèves. Et donc, je connais la plupart des problèmes, ce qui facilite effectivement bien les choses. Mmh. Ça, c'est clair. Moi, je crois que dans un groupement forestier, il est nécessaire d'avoir affaire à quelqu'un de technique. Alors, ça peut être quelqu'un qui est interne au groupement. Sinon, il faut déléguer la gestion à un expert qui permet de faire les choses comme il faut. Alors nous sommes très attachés à la gestion d'une futaie irrégulière parce que nous savons qu'il y a énormément d'avantages à ce type de gestion, et je dis des avantages économiques. Ayant non seulement participé à la création de ProSilva, mais ayant fait des formations continues avec des quantités de forestiers de terrain pendant des années, j'ai aucun problème technique pour gérer cette forêt, c'est évident.
Forêt, vous avez jamais réfléchi qui pourrait être un lieu de formation par la suite?
Alors, là, c'est une révélation parce que j'en ai jamais parlé à mes amis. Je pense que c'est un peu tôt. Mais moi, de toute façon, la formation, elle doit se passer sur le terrain. Et il n'est pas impossible de penser que dans quelques années, on puisse montrer des choses. Pour l'instant, c'est trop tôt parce qu'on n'a pas encore, on l'a pas encore fait évoluer suffisamment. Mais dans 2 ou 3 ans, c'est quelque chose d'envisageable. Et on pourrait par exemple recevoir les gens du réseau avec beaucoup de plaisir.
Des initiatives comme celle du groupement forestier du Pic Noir sont d'autant plus nécessaires que la pression industrielle augmente sur nos forêts. L'exemple le plus éclatant de cette dérive vient de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, où l'entreprise allemande E.ON veut transformer une centrale électrique à charbon en centrale à biomasse. Ce projet délirant est une aberration écologique et économique. Il aurait également des conséquences néfastes pour les forêts dans les zones d'approvisionnement qui se situent dans un rayon de 400 km autour de Gardanne. Et également pour les forêts du Canada, car E.ON veut importer d'énormes quantités de plaquettes forestières. Écoutons Claude Calvé du collectif à Gardanne qui s'oppose au projet.
Alors l'histoire de ce lieu, c'est qu'en 2015, cette centrale devait fermer parce qu'elle n'était plus aux normes actuelles qui imposent un traitement plus important et donc plus onéreux des fumées. Et le propriétaire, la société E.ON, a voulu donc trouver une solution pour pérenniser l'installation. E.ON a sorti de sa manche un projet de centrale biomasse qui, a priori, pouvait attirer l'attention. En fait, ce n'était pas du tout un projet biomasse, c'est simplement une couverture pour poursuivre l'exploitation de cette installation sans y mettre trop d'argent et surtout en ramassant énormément de subventions, ce qui était un effet d'aubaine extraordinaire pour l'actionnaire de cette société.
Rappelons très brièvement, qu'est-ce que c'est précisément le biomasse? Qu'est-ce que ça peut couvrir?
Alors la biomasse, c'est assez vaste, puisque ça peut comprendre le simple déchet vert de jardinage, d'espace public, de déboisement, de traitement des accotements de route, de déchets d'agriculture. Et donc, c'est difficile d'assumer une alimentation stable toute l'année pour une centrale de cette taille.
Mais c'est aussi peut-être pas une quantité suffisante. Donc il faut imaginer aussi aller vers des forêts, plaquettes ou enfin des produits de forêt, d'arbres qu'on va couper.
Voilà, donc cette centrale, pour vivre, elle est partie d'abord sur les phénomènes de subventions qu'il y avait pour la biomasse. Mais ces subventions, normalement, sont réservées à la biomasse lorsqu'il y a cogénération, c'est-à-dire production d'électricité et en même temps production de chaleur pour des réseaux urbains ou pour des industries, ce qui fait que le rendement de la biomasse peut atteindre 80%, alors que la production d'électricité pure, comme pour le projet de Gardanne, ne dépassera jamais 30-33%, et encore sur le papier, puisqu'il va falloir retrancher toute l'énergie nécessaire à transporter le bois, à le triturer, enfin plutôt en faire des, le broyer, en faire des plaquettes, pour pouvoir l'utiliser. Donc le projet s'est monté sur simplement la combustion du bois à destination de l'énergie et en complément de l'énergie à prix négatif, puisque cette centrale brûlera des bois déclassés de catégorie A, c'est-à-dire style palette, donc sans trop d'inconvénients, mais surtout pour 11% de bois de déconstruction, avec tout ce que cela peut comporter comme traitement du bois, peinture, formica, colle, tout ce que l'on veut, bois de déconstruction et bois de déchets de l'industrie du bois. Voilà. Donc cette centrale brûlera surtout d'abord une base de charbon, puisqu'il lui faut quand même de l'énergie fossile pour 13% pour pouvoir fonctionner. Brûlera à peu près 13% de bois de catégorie A, mais surtout de la B la plus polluée. Et brûlera donc pour le reste de la biomasse. Mais la biomasse, il faut qu'il trouve un gisement, et c'est là le problème.
Il faut quand même parler des quantités, quoi, parce qu'on dit que cette centrale de Gardanne sera la plus importante, la plus grande, d'une quinzaine qui sont maintenant autorisées par des ministères de l'industrie et de l'écologie en 2011, donc une quinzaine en France. C'est un peu un nouvel engouement pour ce genre d'énergie, présentée comme énergie renouvelable. Mais Gardanne va être de loin la plus importante.
Ce sera la plus importante, mais c'est surtout, ce serait une fausse centrale à énergie renouvelable, puisqu'elle ne fera pas de cogénération. Alors, premièrement, elle va assécher les crédits destinés à des centrales raisonnables, de taille raisonnable, proche de leur gisement et faisant de la cogénération. Elle va assécher les crédits parce qu'elle va rafler quasiment l'équivalent des 15 ou des 14 autres. Et c'est pour cela qu'il a fallu augmenter l'enveloppe destinée à la biomasse. Alors, cette centrale, qui est dimensionnée pour produire 150 MW, a besoin d'un volume d'un million de mètres cubes de bois pour fonctionner, ce qui est absolument introuvable à une distance raisonnable de la centrale. Donc, le projet prévoit d'aller chercher à 400 km à la ronde et de toute manière, pour commencer l'exploitation, de fonctionner avec des plaquettes d'importation qui viendront de très loin, y compris du Canada, en tant que fournisseur possible, potentiel. Donc le bilan carbone réel et le bilan énergétique réel de cette centrale est encore dégradé par cela. Ce qui est quand même énorme si l'on pense bien sûr que cette centrale qui ne remplit pas les critères de biomasse avec cogénération sera subventionnée, c'est-à-dire on lui paiera l'énergie au prix subventionné de l'énergie renouvelable telle que celle de l'éolien ou des panneaux solaires. Alors E.ON a procédé magistralement. Cette période était la période électorale, donc les dernières présidentielles et législatives qui ont suivi. Et donc il a profité de l'effet d'aubaine de ces élections, des subventions à l'énergie renouvelable, du chantage à l'emploi, pour imposer petit à petit son projet, qui en fait est un véritable hold-up, puisque sa centrale devait fermer. Il n'a pas voulu investir. Maintenant, il obtient un contrat de 1 milliard d'euros sur 20 ans pour de rachat d'énergie, que chaque citoyen paiera sur sa facture EDF, puisqu'il y a une ligne qui, en bas de votre facture, tout le monde peut la vérifier, correspond à notre contribution à l'amélioration du réseau électrique et en même temps des énergies nouvelles. E.ON a menacé de mettre la clé sous la porte, donc il y avait 120 emplois en jeu. Et donc, il était normal que les autorités locales cherchent une solution. Ce qui, par contre, n'était pas normal de mettre tant d'argent dans un projet dépassé, totalement obsolète, alors qu'on aurait pu mettre toute cette somme dans des industries d'avenir et des énergies nouvelles. Donc, ce chantage à l'emploi, qui d'ailleurs maintenant vient de se retourner contre le personnel de l'usine, puisque la centrale, déjà, on ne parle plus que de 80 emplois, certains même de 69. On parle d'externalisation de pas mal de tâches. Et pire, c'est que un tel projet assècherait totalement la ressource en bois de la grande région PACA et même plus loin, puisque déjà l'usine de trituration de pâte à papier de Tarascon va se servir en Bourgogne et dans les Landes. Et elle dit que s'il y a une concurrence, elle sera obligée de partir puisque les prix seront bien trop élevés pour eux.
Ces 400 km, d'accord, c'est le rayon potentiel, mais il y a aussi des zones d'approvisionnement prioritaires, semble-t-il, qui sont assez précisées en fait.
L'industriel E.ON a caché très longtemps son plan d'approvisionnement qui d'ailleurs a peut-être été mis sur pied à la va-vite. L'important pour eux était d'avoir avant tout cette autorisation d'exploiter et ce contrat de subvention d'un milliard sur 20 ans qu'il a obtenu. Et donc maintenant, on entend parler de gisements dans les Cévennes notamment. Alors on parle de châtaigneraies. Est-ce que c'est compatible avec des coupes rases? Parce que vu les volumes nécessaires pour cette usine, on peut se demander de quelle manière ce bois sera exploité. Si la forêt publique sera touchée, si le parc naturel sera touché, si les zones 2000 seront touchés.
Natura 2000,
c'est ça. C'est encore très vague et il y a des contacts qui sont plus ou moins discrets, mais qui sont en général, ils ciblent soit les syndicats de propriétaires forestiers, soit des politiques très localisées sur des communes boisées. Et on n'a pas encore, en publication grand public, de documents qui précisent vraiment quel sera leur plan d'approvisionnement qui doit de toute manière, d'après l'autorisation d'exploiter, aboutir en 2024 à un approvisionnement à 100% par du bois métropolitain. Voilà.
Parce qu'il y a une question de prix aussi. Avant, tu as expliqué que 49 euros, je crois, c'était le prix de livraison de bois à un rayon de 200 km, donc pas de 400, mais de 200 km, en payant les bûcherons, etc.
Le prix revient.
Voilà. Donc sans aucun profit donc pour les propriétaires, si j'ai bien compris, et que le prix de bois plaquette venant de Canada, ce serait nettement moins cher.
Absolument. La plaquette du Canada est à peu près, c'est une fourchette en fait, c'est entre 17 et 25, on va dire 22 euros la tonne. Alors que du bois exploité dans des forêts de la région PACA revient relativement cher à cause du relief, du manque d'accessibilité et aussi à cause du cycle long des forêts de nos régions. Le travail d'exploitation à peu près correspond à 49 euros le mètre cube livré à 200 km. À cela, il faut rajouter le bénéfice du propriétaire de la forêt. Il faut rajouter l'amortissement de tous les investissements parce que route et engins spécialisés coûtent très très cher. Et donc, on arrive à des sommets qui font que le bois local sera de toute manière très très cher. Donc, la subtilité, c'est de faire payer encore une fois le contribuable. Le contribuable aura payé une première fois le contrat qui lie l'État à l'industriel pour 20 ans pour 1 milliard d'euros à un prix bonifié, c'est-à-dire au même prix, on va racheter le kilowatt au même prix que l'énergie éolienne ou l'énergie des capteurs solaires, alors que ce ne sera qu'en fait qu'un procédé très gourmand en carbone, certes renouvelable, mais avec un rendement ridicule, et qui ne devrait pas avoir droit à cette subvention s'il ne fait pas de cogénération. Et d'ailleurs, toutes les personnes raisonnablement averties dans ce domaine disent que ce projet est complètement fou, y compris la commission sénatoriale sur la biomasse qui est en train de sortir un rapport, et dont les auditions sont édifiantes. Tout le monde dit « mais c'est une catastrophe qu'il faut arrêter d'urgence ». Et donc, tout cela fait que, la dynamique pourrait repartir, mais si elle repart, il faut donc attaquer l'autorisation d'exploiter de cette installation.
C'était Claude Calvé du collectif Agardane, fortement opposé au projet de méga-centrale d'Eon. Pour conclure cette émission, écoutons encore trois élus qui ont présenté, lors d'une conférence de presse, le 16 décembre 2013 à Grandbois, dans le Vaucluse, la motion adoptée conjointement par le Parc naturel régional du Luberon, par le Pays de Haute-Provence, par deux communautés de communes et par deux chartes forestières, ce qui représente une centaine de communes. Vous entendrez d'abord Jean-Louis Joseph, président du Parc du Luberon et vice-président du Conseil régional, Pierre Honoré, président de la Charte forestière de la Montagne de Lure, et enfin Brigitte Reynaud, présidente de la communauté des communes du Pays de Bannon.
Il me revient de vous présenter d'abord la démarche et les territoires concernés. La démarche. Nous avons appris il y a quelque temps, sans d'ailleurs trop y croire parce que le projet nous paraissait tellement aberrant, qu'une énorme centrale biomasse allait se créer sur le site de la centrale thermique à Gardanne. Alors, on s'est intéressé au projet, bien sûr. On savait qu'il y avait des emplois en jeu. On ne le nie pas. Mais quand on a commencé à découvrir ce projet, qui va vous être expliqué, qui risque de, à la fois, déstructurer notre filière bois. Je rappelle au passage que les personnes qui sont ici présentes ne sont pas contre les centrales de biomasse, puisque sur le territoire du Luberon, uniquement sur le territoire du Luberon, nous avons 55 chaudières publiques, déjà, 55. Et puis des projets, plein de projets qui arrivent, avec une structure d'approvisionnement qui s'est mise en place, mais enfin ça, d'autres vont le dire. Et ce projet, donc, qui s'installe à Gardanne avec un industriel qui a les moyens, qui a obtenu donc des fonds importants de l'État. C'est un énergéticien, c'est comme ça qu'on dit, allemand, le groupe E.ON, qui est un énorme groupe européen, va s'installer. Ce qui nous inquiète, en tout cas, nous, la réserve de biosphère Luberon-Lure, les chartes forestières du Luberon et de Lure, le parc du Luberon, le pays de Haute-Provence, c'est l'énormité de ce projet. Voilà, encore une fois, on n'est pas contre des centrales de biomasse de moindre importance, mais celle-là nous paraît un véritable danger pour notre forêt, pour la biodiversité. Et moi, je pense, c'est pas écrit dans la motion, mais je pense qu'on perdra davantage d'emplois sur le territoire, mais ça ne se verra pas les emplois qu'on va maintenir sur Gardanne. Je pense qu'on aurait pu trouver une autre solution pour maintenir les emplois sur Gardanne plutôt que de faire ce projet gigantesque qui est très dangereux et qui sera probablement la plus grande centrale de biomasse française.
Parmi les aberrations les plus importantes de ce projet, c'est l'utilisation d'une structure minière, donc d'une ressource qui théoriquement est prévue pour être exploitée sur place, et donc ça justifiait l'installation de la centrale de Gardanne tant qu'elle fonctionnait au charbon, mais avec le déplacement de la matière première qui va être utilisée, c'est-à-dire la ressource forestière, qui par essence est déconcentrée, est étalée, on voit mal pourquoi on va préserver une structure centralisée pour exploiter cette énergie, alors qu'au contraire, l'exploitation de cette ressource décentralisée doit passer forcément par l'installation d'une filière répartie sur l'ensemble du territoire. On est loin d'avoir là une centrale qui se base sur le développement durable. C'est une aberration énergétique et c'est une aberration économique.
En dénonçant les projets industriels tels que celui d'E.ON, nous dénonçons la mainmise d'un acteur unique sur nos forêts et la destruction du travail accompli jusqu'à ce jour. Ces filières industrielles ne répondent qu'à des visées courtes et non à un projet durable de territoire. Je pense qu'il serait souhaitable qu'une vraie réflexion soit engagée par nos autorités de tutelle lorsqu'elles doivent autoriser de tels projets. En effet, ces projets d'E.ON et Innova sont dénués de bon sens. Comment peut-on soutenir des projets respectueux de l'environnement en favorisant des ressources locales, des circuits courts et en parallèle donner sa bénédiction pour de telles aberrations industrielles qui risquent non seulement de dévaster notre territoire forestier, notre environnement, mais également de déstabiliser l'économie de notre région. Il serait temps que les acteurs directement concernés soient vraiment concertés, vraiment écoutés. Nous sommes fatigués de devoir toujours nous battre, de perdre du temps, de l'argent, de la crédibilité, parce que les choses sont réfléchies avec des intérêts qui sont bien trop éloignés des véritables enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Quand arrêtera-t-on de nous prendre pour des demeurés prêts à accepter n'importe quoi sous la menace de l'emploi. Nous sommes fatigués, nous, les élus, les citoyens responsables et intéressés par notre environnement, notre vie. Mais nous ne baisserons pas les bras et disons fermement non à cette aberration économique, sociale et environnementale.
C'était Dynamique forestière, la 13e émission de la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zanzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Pour trouver plus d'informations sur le réseau, consultez la page Forêt sur le site internet www.relier.info. Relier, R-E-L-I-E-R.info. Vous trouverez également sur ce site les 12 autres émissions dans la série Entre cimes et racines. C'est également possible d'écouter ou télécharger ces émissions sur le site de Radio Zanzine, www.radiozanzine.org.